Bonjour,
bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour ces matins du samedi. Si nous nous étions retrouvés l'an dernier, à la même époque, vous nous auriez raconté une toute autre histoire que celle dont on va parler ce matin.
Certainement, je vous aurais dit avec une gourmandise absolue les artistes qui allaient arriver à la crier, ce qui était l'effervescence, le hall, les expositions, le public, les enfants l'après-midi. Je vous aurais décrit quelque chose d'extrêmement vivant. Aujourd'hui, les plateaux sont pas tout à fait éteints parce qu'on y travaille, on y répète, mais aujourd'hui on est dans une expérience de l'empêchement.
Ça ressemble à quoi un théâtre en ordre de marche, parce qu'il est en ordre de marche,
comme
tous les théâtres,
oui.
mais qui, d'une certaine façon, ne remplit pas son office habituel.
Alors c'est une sorte de paquebot à quai, c'est-à-dire que tout est là.
Dans une ville comme Marseille déjà.
Voilà, donc il est là, c'est un bâtiment magnifique. Il y a un certain équipage sur le pont, mais à distance, qui se regarde et qui guette quelque chose qui n'arrive pas. C'est-à-dire que un grand théâtre, c'est un lieu d'accueil des artistes, d'accueil du public, et aussi qui crée du lien dans une ville. On n'est pas là par hasard. Je crois beaucoup à la topographie des lieux culturels dans les villes. Et là, ce grand théâtre sur le Vieux-Port, il est comme une référence. Et il est aussi un théâtre de proximité. Donc, on passe sur le quai de Rive-Neuve et on peut pas pousser la porte. Il y a quelque chose d'absolument pas naturel à ça. On fait l'expérience de l'empêchement, mais cet empêchement ne doit pas devenir un enfermement. Parce que vous savez, ces lieux, même historiquement, ils ont eu tendance à être un peu féodaux. Donc, on a tout fait pour l'ouvrir. On a tout fait pour vraiment accueillir, pour que les différentes portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant toutes sortes de publics. Et voilà qu'à nouveau, parce que le sanitaire est roi, on aurait cette fermeture. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que cette suite de contraintes sanitaires qui sont obligatoires et que nous respectons à la lettre et bien au-delà ne deviennent pas un enfermement quasi psychique. Enfin, il y a quelque chose de... Notre rôle, c'est d'accueillir.
Macha Makaïev, nous sommes deux jours après une date qui avait été annoncée comme étant possiblement une date de réouverture des lieux de culture. C'est aussi pour cela que nous vous invitons aujourd'hui dans ces matins du samedi. Eh bien, effectivement, il y a ce calendrier, ce stop and go dont on dit tout le temps, il est assez insupportable. Cela veut dire que si on vous avait dit au tout début de la pandémie, au printemps dernier, pendant un an, et c'est ce qui va se passer, ou plus ou moins, vous êtes fermé. Vous réfléchissez comment à réinventer un lieu, puisqu'on vous a demandé d'enfourcher le tigre, réinventer un lieu différemment pendant un an. Ça aurait pu être intéressant. Là, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, c'est cet aller-retour permanent qui vous oblige à ouvrir un peu, pas trop. L'été, par exemple, vous n'avez pas trop voulu participer à cette réouverture très temporaire. Imaginez des choses avec des classes, imaginez des choses avec des jeunes enfants, et puis répéter sans savoir si cette répétition donnera lieu à un spectacle.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement cruel. Alors, comment vous dire, c'est... Nous arrêter complètement, c'était à l'époque impensable. Il faut quand même, c'est à nous maintenant de dépasser l'absurde d'une situation. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'absurde. On est empêché, on est à distance, on se parle pas, on se touche pas.
Ah, il faut dire, on est à 4 mètres l'un de l'autre.
Ah là, oui, là, vraiment. Ça nous fera peut-être des souvenirs dans quelques temps, j'espère.
Mais c'est 4 mètres carrés qu'on vous a demandé à un moment de conserver entre deux spectateurs dans une
salle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la géographie du théâtre est complètement bouleversée parce que nous, on est d'habitude face à face, côte à côte avec des anonymes. Il y a quelque chose d'assez profond dans le fait d'accueillir tout le monde. Alors maintenant, on nous dit qu'il va falloir surveiller si ces gens-là sont sanitairement conformes, etc. C'est très délicat. Alors la grande fermeture, je pense qu'on l'aurait très mal vécu, c'était inenvisageable. Maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement cruel parce qu'on vérifie l'immensité de notre désir. Le désir, nous, c'est de jouer, c'est d'exercer notre art, c'est d'accueillir, c'est d'être là. Donc, effectivement, on est condamné à une espèce de souplesse qui, quelquefois, oui, là aussi, approche l'absurde. C'est-à-dire qu'ouvrir un grand théâtre, c'est pas simplement l'éclairer. C'est avoir un autre plan, c'est-à-dire quelle programmation faire si on ouvre et on referme, si on ouvre et on referme, qu'est-ce qui va se passer. En même temps, il y a quelque chose qui nous incite à l'invention. Et moi, je veux pas du tout céder à l'amertume. Et pourtant, je vous assure, alors c'est peut-être parce que c'est le matin que le jour va se lever ou est en train de se lever, ça va mieux. Mais le soir, je vous assure que c'est animal, c'est organique. Je suis envahie, comme beaucoup de mes amis et beaucoup d'artistes, envahie par une infinie tristesse. Et le jour, bien sûr, on retrouve une force. Et moi, je suis dans un tel désir que je recouvre une certaine énergie d'invention. Et je pense qu'on est condamné à ça, à la souplesse et à l'invention. En même temps, Je ressens la tristesse des autres artistes et probablement les plus jeunes souffrent encore davantage. Il y a quelque chose qu'ils n'acceptent pas, mais quelquefois je leur dis, dans ces situations d'absurdité, voilà, comme Camus, il faut savoir imaginer Sisyphe heureux, quoi.
Donc, vous êtes vous-même un peu spécialiste de l'absurde. Vous avez aimé, vous aimez toujours l'absurde. Oui. Vous avez toujours lorgné du côté de cet absurde, aussi bien évidemment avec la troupe des Deschiens au tout début, mais aussi là vous allez monter le suicidé. Enfin, vous participez au costume.
C'est Jean Mellorini qui monte le suicidé. Oui.
De Nicolas Yardman. Mmh. C'est une pièce aussi sur l'absurde.
Totalement.
Vous avez travaillé sur Lewis Carroll. C'est aussi l'absurde. Donc, quelle différence entre cet absurde de fiction qu'on peut désirer pour pouvoir justement le magnifier en tant que metteuse en scène comme vous, par exemple, ou costumière parfois, et puis cet absurde du réel qui, là, nous fracasse.
Parce qu'il y a la puissance de la réponse poétique. Et ça, nous, c'est notre arme, en fait. C'est-à-dire prendre l'absurde dans ce qu'elle nous... Elle nous donne à voir évidemment de la fragilité de nos existences, mais aussi de la marche immense qu'il y a, le pas de côté qu'est la fiction. Je veux dire, cette fiction, c'est vraiment ce qui nous protège du désastre. Alors là, effectivement, on pourrait faire un état des lieux, moi comme tant d'autres, vous dire c'est désastreux, le théâtre est fermé, c'est triste, on ne sait pas quoi faire, on est mal. Bien sûr, je pourrais vous faire un état des lieux effroyable, mais comme il y a en moi une petite musique de cette espèce d'insolence qu'est la fiction, et que je pense que c'est ça qui nous sauve dans toutes les situations, c'est pour certains ce qu'on appellera l'humour. Et vous citiez Lewis Carroll, il y a quelque chose d'un entêtement à ne pas accepter le monde tel qu'il est, à le réinventer sans arrêt, que j'espère et je souhaite et je désire être à cet endroit-là comme artiste. Et même comme directrice de théâtre.
L'absurde, c'est aussi d'entendre sa ministre qui, comme sur France Info, dit « Je mets mes tripes sur la table », un extrait hier, justement, de l'entretien de Roselyne Bachelot à France Info.
Je suis là pour faire vivre la culture, je suis là pour la protéger, et dans cette circonstance où dans la plupart des pays européens la culture s'effondre, regardez ce qui se passe en Angleterre, où le Covent Garden vend les bijoux de famille pour continuer à vivre, où 35% des musiciens anglais changent de métier, nous, ici en France, on les protège. Bien sûr, je fais vivre la culture. Je prends les mesures qui vont permettre à la culture de passer ce cap. Il y aura de nouvelles aides qui seront apportées au monde de la culture. Il y a le maintien des aides qu'on appelle les aides transversales, les prêts garantis pour l'État, la prise en charge du chômage partiel, des aides, des exonérations de charges sociales. Il y a des aides spécifiques.
Il y en a beaucoup qui ont pris fin là, fin décembre 2020.
Bien sûr, mais nous les prolongerons. Autant que de besoin.
Roselyne Bachelot, hier sur France Info, effectivement, une ministre qui dit qu'il vous aime et qui dit je ne peux pas faire beaucoup plus que cela parce que la crise sanitaire m'empêche de faire plus que ce que j'ai déjà fait. Et elle dit, nous avons fait déjà beaucoup par rapport à d'autres pays européens.
Certainement que la situation des, notamment dans le spectacle vivant, notre situation est, est, est très privilégiée par rapport à la ministre cité l'Angleterre et par rapport à l'essentiel des pays. Voilà. Donc ça, là-dessus, on peut quand même le saluer. On sera probablement accompagné financièrement. On nous le dit. Je veux le croire. En même temps, il va falloir aussi avoir la vision des deux saisons qui arrivent et savoir qu'il va y avoir une espèce d'embouteillage et qu'il va falloir inventer, donc alors, faire plus.
Alors effectivement, il faut comprendre comment on programme. Ça, c'est important que de le dire. Mm-hmm. Vous programmez d'une année sur l'autre.
Oui, même quelquefois 2 ans, parce qu'accompagner un artiste ou une artiste, c'est quelquefois être vraiment au départ de la création. Donc quelquefois, c'est 2 ans. Il y a des artistes qui sont à la fois des gens de scène et des plasticiens ou des plasticiennes. Voilà, ce qu'ils vont présenter au public prend 2 ans. Donc c'est des accompagnements, il faut du souffle, sinon on fait des coups, sinon on fait une programmation de chéquier, on va chercher, on voit des jolies choses et puis on vous fait une jolie petite... Non, c'est pas ça. Nous, on est surtout les centres dramatiques nationaux, on accompagne les artistes. Donc il va falloir, dans les 2 ans qui arrivent, comme il y a tout un système de report. Et vous savez, moi, si je prends la brochure de la Criée, si je vous raconte tout ce qui n'a pas eu lieu...
Spectacle annulé.
Oui, c'est d'une... Enfin, or là, pour le coup, il y a une vraie réflexion philosophique et de désir contrarié de tous ceux qu'on n'a pas... de tous les spectacles qui n'ont pas eu lieu. Où ça va, les spectacles qui n'ont pas eu lieu? C'est perdu, vraiment.
Est-ce que c'est comme les éléphants en Afrique, ça va mourir, selon le rêve, dans un cimetière des éléphants? Ça va où?
Écoutez, il y a probablement un cimetière quelque part. C'est quelque chose, moi, qui me hante depuis toujours, d'ailleurs. Et même quand on défait, quand on démonte, parce qu'on n'arrête pas, nous, de monter, de démonter. Et quand les temps étaient plus heureux, démonter le spectacle pour la dernière fois est une chose absolument... invivable, c'est quelque chose de fou. Alors on croit, effectivement, on se met à croire, avoir la foi en quelque chose, ce spectacle qui ira ailleurs dans les esprits et qui devient comme éthéré et qui s'inscrit dans une histoire. Voilà. Mais là,
un spectacle, c'est comme une exposition, contrairement à un film, contrairement à un livre qu'on peut retoucher.
Alors,
relire.
Les expositions, oui, quand on vous retire les tableaux, c'est difficile parce qu'ils les prêtent très peu de temps.
Voilà.
Mais c'est vrai que ce qui n'a pas lieu, on peut s'interroger sur ce qui n'a pas lieu, mais je pense qu'il va falloir, là, en ce moment, inventer, à tricoter 2 saisons à la fois, avec tout un système de report, tout un système, et aussi continuer à accompagner la création, et continuer à accompagner les compagnies. Mais ça veut dire que il va falloir faire plus. Moi, je crois qu'il va pas falloir faire le dos rond, affaler la voile, il va falloir faire plus, il faut que justement nos tutelles l'entendent et nous aident à faire plus, beaucoup plus de levées de rideaux et accueillir davantage.
Oui, alors l'absurde, ça peut être aussi ces voix qui se rassemblent, de créateurs qui disent « nous exigeons, nous voulons des lettres au président de la République, des lettres au Premier ministre ». Vous en avez signé vous-même une qui s'appelait « Nous, directrices et directeurs de lieux culturels, nous appelons à la réouverture des théâtres ». C'était le 23 novembre, effectivement.
Oui, faire entendre le désir me paraît quand même la moindre des choses.
Bien sûr.
Et si nous savons l'exprimer d'une certaine façon, c'est pas mal aussi. Enfin, je veux dire, c'est... On a moi, si je prends l'exemple de Marseille, on a le sentiment que on touche toute une population dans cette ville très, très singulière, on touche toute une population qui, s'il n'y a pas cette ouverture de la fiction, s'il n'y a pas ce théâtre de la proximité, ils n'y viennent pas. Quand ils rentrent chez eux, ces gamins notamment, ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas de bouquin. Il y a quelque chose qui n'a pas lieu, qui est socialement très, très grave. Il y a un lien qui se défait. Et ça, ce travail-là que l'on fait, évidemment, on parle beaucoup des artistes et de les accueillir, c'est l'essentiel de nos missions. Mais il y a aussi cette mission d'attraper les plus fragiles.
Et vous le faites encore là pendant cette période-là où c'est...
Alors on le fait
possible
dans les écoles. Alors voilà. Ce qui paraît aussi, on parle d'absurdité, voilà. Mais dans les écoles, effectivement, les acteurs arrivent dans la salle de classe, mm-hmm, ou dans des petits locaux exigus, racontent des choses. Je pense que ça, on pourrait je pense que la mise peut y être sensible, on pourrait quand même à nouveau accueillir des enfants dans les meilleures conditions du monde, d'une façon, on a beaucoup beaucoup d'espace, et leur montrer le théâtre au théâtre même. Et je pense que ça, c'est des choses comme ça qu'on pourrait remettre d'aplomb tout de suite. Voilà.
Est-ce que l'absurde, ça n'est pas aussi que des artistes comme vous, Macha Makaïef, se sentent obligés à un moment ou à un autre et à l'appel d'autres artistes comme Stanislas Nordet qui, quoi, je crois, était à l'origine de cette demande de dire on va dire qu'on veut se faire vacciner parce que d'abord, ça permettra d'avoir un effet d'entraînement, peut-être. Et puis, de l'autre côté, eh bien, ça permettra une réouverture peut-être plus précoce des lieux de culture. Cette idée de se dire, alors, on est citoyen, et c'est à ce titre-là, j'imagine que vous avez signé ce texte, en l'occurrence, mais aussi de se dire, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de cette logique pour que nous puissions retravailler.
Oui, bien sûr. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit non, mais qu'est-ce que je suis pas dans le sanitaire, je suis pas là, je suis pas un repère sanitaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et puis non, en fait, moi, si j'appelle à ça, bien sûr, c'est par un certain sens civique, mais mon Dieu, je ne suis pas, je vais pas être un modèle de ce point de vue-là. Mais c'est surtout parce que je trouve la pusillanimité de notre époque insupportable. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un retrait, une rétractation sur son petit confort, sa petite peur, sa petite amertume, voilà. Et le système est là qui peut faire qu'on devienne vraiment des Bernard l'ermite, c'est-à-dire vraiment moi, j'entre dans ma coquille, je mets ma pellicule, puis alors le vaccin c'est dangereux, moi j'en ai peut-être pas besoin, et donc tout d'un coup l'image du collectif, l'image de la peur de la piqûre m'a fait rire comme ça ferait rire dans un spectacle. Il y a quelque chose quand même d'insupportable et d'insoutenable à se dire on risque de continuer à avoir les théâtres fermés et tant de choses et les musées et moi je sais quand je vois pas de peinture je marche à cloche-pied, voilà, donc j'ai besoin d'aller dans les musées comme nous tous et donc voilà ces petites peurs, petites bourgeoises, je les ai en détestation.
Surtout que vous les dénoncez, voilà, dans toutes vos pièces.
Absolument. Donc alors, voilà, moi je dis, allez-y, piquez-moi.
Je vous parlais justement de ces réouvertures possibles. La ministre a annoncé hier une sorte de calendrier en disant on pourrait réouvrir les musées d'abord, et puis ensuite d'autres lieux, puis ensuite finalement les lieux accueillant des spectacles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée justement que de ne pas mettre tout le monde à la même enseigne, mais au bout du compte de se dire, eh bien, il y a des endroits qui sont peut-être encore moins dangereux, même si aucune preuve de contamination dans les théâtres, par exemple, ou dans les cinémas n'a été trouvée à ce jour, d'après ce que j'ai cru lire.
Moi, je crois que c'est l'intelligence de Roselyne Bachelot qui veut amorcer quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans ce qu'elle proposait, c'est de dire, mais allez, commençons à ouvrir quelque chose. Et puis après, voilà, elle a quand même un élan qu'on peut saluer. Voilà, elle est de notre côté, c'est pas quelqu'un qui entérine le fait que tout soit empêché, qu'il faut être très sage et attendre que le monde change. Non. Elle est dans une espèce d'énergie que j'aime bien saluer. Et puis, il faut commencer. Alors, si on commence par les musées, c'est très bien. Mais vous savez, les théâtres sont devenus quand même des lieux hautement sanitaires. On est quasiment des polycliniques. Maintenant, vous pouvez pas savoir. C'est désinfecté. Enfin, alors j'espère que d'ailleurs, cet hygiénisme qui nous est imposé ne sera pas non plus, par porosité, ne viendra pas dans les esprits. Hein, parce que là, ça serait dangereux. Donc, moi, je crois qu'il faut commencer. Les flux des musées sont très simples. Mais nous, au théâtre, c'est assez simple aussi. On sait faire maintenant. Vraiment, on est devenus des virtuoses de l'hygiène et du sanitaire.
On voit votre regard amusé, ironique, un peu coruscant sur cette réalité qui nous frappe tous. On peut imaginer qu'il y aura des œuvres de Macha Makaïev qui prendront à bras-le-corps ce réel, parce que ce réel, il est complexe, il est mondialisé, il nous bouleverse d'un bout à l'autre de la planète en même temps, il nous empêche de voyager, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que vous vous mettiez à l'écriture, que vous imaginiez quelque chose, que vous rêviez par la fiction ce que nous sommes en train de vivre?
Mais c'est évident, et j'allais dire même que certains ont anticipé. C'est-à-dire que quand je vois la réponse des hommes de Tiphaine Raffier, qu'on cherche à créer, mais qui est là, qu'on a vu, nous, en petit comité, ou le jeu des ombres de Bellorini, il y a quelque chose de tout à fait prophétique dans ce qu'ils ont proposé. Ce jeu avec la mort, je me retourne et le mythe d'Orphée, enfin, quelque chose, je crois que souvent les artistes anticipent les bruits du monde. Et c'est là où il y a quelque chose d'essentiel et de précieux.
7h33, nous retrouvons sur France Culture notre invitée culture, la directrice de la Criée Théâtre National de Marseille, Macha Makaieff. Rebonjour, Macha Makaieff. On a beaucoup parlé pendant la première partie de cet entretien de ce qui n'allait pas d'une certaine façon, mais vous nous avez laissé entendre qu'il y avait des pistes pour vous à la Criée et même pour peut-être certains de vos amis et collègues de théâtre public ou privé, des pistes d'imagination, d'inventer quelque chose. Et tout compte fait, c'est ce que le président de la République il y a très longtemps, quand le précédent ministre était Franck Riester, vous avez dit imaginer, réinventer, ce que vous faites tous les jours, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous réinventez, vous, de votre côté à Marseille?
Alors nous, cet été, par exemple, on a réinventé... On a inventé une nouvelle échelle qu'on connaissait très mal, en fait, qui est du fil à fil, du cousu main, c'est-à-dire travailler avec des groupes de 8, de 9, de 10 personnes parmi dans la population les plus fragiles de Marseille. Et cette relation-là, c'est-à-dire que le théâtre à cet endroit-là, dans une relation absolument intime, individuelle, délicate.
Ça s'appelait Rêvons au théâtre, c'est ça?
Ça s'appelait Rêvons au théâtre, et c'était un peu un éloge de la douceur aussi, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas passer la porte du lieu culturel, s'asseoir dans une grande salle, etc. Où on a fait aussi, grâce à un mécène, première fois par la mer, c'est-à-dire qu'on embarque les enfants d'écoles où ils sont dans des situations un peu compliquées, avec des enseignants extraordinaires par ailleurs. On les embarque du côté du MUCEM, on leur explique ce que c'est que le MUCEM, ce grand musée
en bord de mer,
comme ça, et ils font une croisière de 35-40 minutes avec un compteur, et puis ils accostent quai de Rive-Neuve, et ils arrivent à la Criée, au théâtre, au spectacle, pour la première fois par la mer. Et c'est l'occasion aussi pour eux de prendre conscience qu'ils vivent dans un port, de la topographie, là où ils sont. Parce que très souvent, quand on est enfant, on voit pas grand-chose, on a des gens devant soi. Et puis on arrive et quelque chose vous attend, c'est-à-dire que c'est ça aussi ce qu'a de plus beau notre République, c'est-à-dire que il y a une préméditation à vous accueillir et à vous donner le meilleur, c'est-à-dire la fiction. Et voilà, donc ce périple, cette croisière, prendre le large pour revenir à l'essentiel, pour arriver à l'essentiel pour la première fois, voilà, ça il y a aussi une valeur symbolique dans ce petit voyage de 40-45 minutes avec un conte et voilà, je pense qu'on peut faire des gestes une force poétique et qui vont s'inscrire
après, dans l'imaginaire et dans le souvenir,
voilà,
de chacun.
C'est-à-dire que c'est-à-dire que la chose artistique s'adapte aussi et le contenu artistique s'adapte à ça. Après, je pense qu'il faut aussi, on va pas revenir, je crois pas, pour aller un peu vite, je crois pas qu'on va revenir au monde d'avant. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, notre responsabilité, c'est d'inventer le suivant et notamment dans nos grandes maisons, réfléchir justement là où elles peuvent être encore plus généreuses, plus ouvertes. À travailler beaucoup plus ensemble, et la transversalité et aussi les disciplines plus que jamais, ne pas séparer les artistes dans des disciplines différentes.
Oui, alors ça, évidemment, c'est votre grand leitmotiv, Macha Makaieff, de faire travailler ensemble des plasticiens, des artistes de scène, par exemple. Une des questions, c'est que quand on vit une crise, il y a des séquelles de la crise dans les métiers, en l'occurrence. Et alors, il y aura peut-être des séquelles qui tiendront, non pas comme en Angleterre, à la disparition complète de compagnies, mais pourquoi pas. Les séquelles peuvent être aussi entre des compagnies installées, ces grands paquebots aussi dont vous me parlez, c'est-à-dire les CDN, les centres dramatiques nationaux, et les petites compagnies, par exemple. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de jalousie, il n'y ait pas l'impression pour les uns de risquer la disparition complète tandis que d'autres arriveront à survivre?
Écoutez, moi j'ai vécu essentiellement avec une compagnie. Il y a seulement 9 ans que je suis à la tête
depuis
d'une institution.
2011.
Voilà. Donc comment vous dire, l'erreur absolue serait de nous opposer. Je veux dire, nous on est une espèce de grande gare de triage. Et les trains passent par nous, et les petits, les grands, les moyens, les grands spectacles, mais aussi toutes les compagnies que nous accompagnons localement, mais aussi les artistes, les jeunes artistes que je rencontre ici et là sont accueillis, sont accompagnés. Donc on n'est pas, il n'y a pas d'opposition, on n'est pas là, on n'est pas des espèces de de grosses machines qui vivraient sur elles-mêmes. On est absolument le contraire.
Vous disiez dans un entretien, un débat qui s'appelait l'urgence des arts, c'était le 14 décembre dernier, organisé par le Théâtre de la Ville et l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Vous disiez en fait que Marseille pourrait aussi servir de seconde capitale, après avoir été brièvement en 2013 capitale européenne de la culture, que Paris était peut-être un peu seul, se sentait un peu seul, et que tout compte fait, pourquoi ne pas pousser les feux pour que cette deuxième ville de France, cette immense ville qu'est Marseille, puisse justement être vue comme une grande capitale culturelle.
Moi, écoutez, je pense qu'on a besoin justement d'utopie et que depuis que je suis à Marseille, je l'ai vérifié. Je veux dire, je pense qu'il faut dans ce pays et à ce pays une deuxième capitale. Je pense que ça serait une émulation formidable que Paris.
Ça doit faire plaisir à la nouvelle Paris, municipalité, par exemple, qui vient d'arriver au pouvoir. Si vous lui dites, vous êtes la deuxième capitale.
Mais vous voyez, c'est comme travailler ensemble. C'est-à-dire, moi, je suis en train de travailler avec Thomas Joly, Jean Bellorini, Nathalie Cabrera. On réfléchit à des arcs, c'est-à-dire des maisons qui travaillent ensemble.
Des arcs, ce serait donc une sorte d'affinités électives.
Absolument, ce sont des affinités électives et ce sont des structures ouvertes et non administratives, hein. Parce que voilà, il y a beaucoup trop d'administration dans nos vies artistiques et de la même façon, je pense qu'une Marseille contient absolument l'exemplarité et tout ce qu'il faut et le potentiel pour devenir la seconde capitale de la France. Et je pense que de ce dialogue, et dans tous les grands pays, regardez, il y a toujours deux capitales, il y a une émulation absolument magnifique. Et aujourd'hui, cette capitale Europe, vraiment, qui est à la fois européenne, méditerranéenne, qui a un potentiel de jeunesse extraordinaire, qui comme elle s'est un petit peu arrêtée, peut se moderniser d'une façon éclatante. Je pense qu'il y a, et en plus dans la société marseillaise, il y a déjà un tissu de solidarité qu'on ne suppose pas. C'est tout un maillage social, c'est pour ça que ça tient. Je pense qu'il y a plein d'endroits que je pourrais développer plus longuement. Je pense que ça serait le moment, et ça serait un geste politique qui ferait du bien à toute la France.
Y compris à Paris, qui s'ennuie toute seule, d'une certaine façon.
Je pense que, de temps en temps, il me semble, parce que bon, moi, c'est à Paris que j'ai vécu le plus longtemps possible, mais depuis que je suis à Marseille, je vois Paris comme un vieil amour. Et donc, je me dis, il parle un peu seul, de temps en temps. Voilà. Et je pense qu'il y aurait, là aussi, un pont à tisser et une émulation avec quelque chose d'une effervescence entre deux villes, et ça serait assez beau. Et l'ouverture méditerranéenne aussi, il y a urgence.
Nous allons nous quitter, malheureusement. On aurait bien voulu développer encore tous vos projets, Masha Makeyev. Cela va vite avec votre choix musical, et vous avez choisi un titre de Brian Molko, de Placebo, qui s'appelle Protect Me. Pourquoi ?
D'abord, j'aime beaucoup cet artiste. Je le trouve. Je rêverais de mettre en scène des artistes de cet endroit-là, de la scène. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans leur façon de s'offrir au public. Et puis, cette chanson me touche particulièrement, Protect Me. Pour moi, ça fait. Il y a quelque chose de Henry James, il y a quelque chose du tour d'écrou, il y a quelque chose de l'enfance bousculée comme ça et qui fait
et du Caire, et du Caire aussi tel qu'on le dit aujourd'hui.
Absolument.
Puisque ce que vous nous avez dit depuis le début.
Voilà, mais il est question de l'âme, il est question pas seulement du sanitaire.
L'âme et le sanitaire, ça va souvent ensemble. Merci Masha Makeyev, on écoute ce morceau.
Protect me from what I want.
Le choix musical de Macha Makaïev, invité de la première partie de ces matins du samedi, Protect Me par Brian Molko de Placebo. Et sur la vidéo, il y avait le fantôme de David Bowie. Quand on déplore le cinquième anniversaire de la disparition. Aujourd'hui, merci à vous, c'était votre choix musical. Merci beaucoup d'être venu à France Culture ce matin.